Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. En cette journée sur les routes de l'exil, je vous propose un petit tour de monde des écrivains. L'espagnole Carmen Balcells est morte, nous apprend La Croix, surnommée la Dame des Nobel. Cet agent de nombreux écrivains, décédé à 85 ans, fut en grande partie à l'origine de la reconnaissance internationale de la littérature ibéro-américaine au XXe siècle. Dans son carnet d'adresses figuraient plusieurs prix Nobel et Cervantes, le Colombien Gabriel García Márquez, qu'elle avait propulsé au premier plan, le Péruvien Mario Vargas Llosa, l'Argentin Julio Cortázar ou encore la Chilienne Isabel Allende. En parlant de grandes dames et de prix Nobel, on a lu dans Libération que Doris Lessing, prix Nobel de littérature en 2007, a été espionnée par les services secrets britanniques de 1943 à 1964 en raison de ses convictions communistes et de son engagement contre le racisme. L'information secrète jusqu'ici a été révélée par la déclassification mi-août de documents des archives nationales britanniques. Dans un document du MI6 daté de 1952, il est dit qu'elle est certainement pro-communiste, bien qu'il n'est pas certain qu'elle soit membre du Parti communiste britannique. D'après son dossier, il apparaît que les services secrets n'ont pas pu déterminer dans les années 50 si elle était ou non membre du parti. En réalité, elle l'a été à partir de 1951, mais l'a quitté en 1956 lors de l'écrasement de la révolte hongroise. Si elle est moins surveillée à partir de cette période, des pièces continuent tout de même à être versées à son dossier jusqu'en 1964. Après les écrivains espionnés, les écrivains espions, Frédéric Forsyth, 77 ans et une vingtaine de romans, révèle dans son autobiographie The Outsider, parue au Royaume-Uni le 10 septembre, qu'il a travaillé pour le même MI6, le service de renseignement britannique, rapporte le magazine littéraire. Il raconte avoir transporté le paquet d'un agent secret en RDA, enquêté sur les intentions nucléaires de la Rhodésie, aidé un coup d'État raté en Guinée équatoriale, comme Ian Fleming, John le Carré et Graham Greene. Il a nourri ses livres de ses activités secrètes. L'article ne dit pas, malheureusement, s'il surveillait sa consœur Doris Lessing dans les années 60, mais la tradition de l'écrivain subversif reste bien vivante. Le parquet italien a ainsi requis lundi dernier, 21 septembre, 8 mois de prison ferme contre l'écrivain italien Eri De Luca, jugé à Turin pour incitation au sabotage du chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, nous informe Le Monde. L'écrivain de 65 ans, qui encourt jusqu'à 5 ans de prison ferme et avait déjà annoncé qu'il ne ferait pas appel en cas de condamnation, s'est dit stupéfait par la différence entre les arguments produits par le parquet et ce réquisitoire a minima. Je m'attendais au maximum, a-t-il expliqué. Opposé au projet de TGV Lyon-Turin, il avait déclaré à la version italienne du site Huffington Post en septembre 2013, les sabotages sont nécessaires pour faire comprendre que le TGV est une œuvre nuisible et inutile. Eri De Luca a bien utilisé le mot sabotage, a estimé le procureur Antonio Rinaudo dans un réquisitoire énumérant les différentes attaques contre le chantier, en particulier celles suivant l'entretien de l'auteur. Lors de cette interview, Eri De Luca, longtemps militant d'extrême gauche, écologiste, prix Femina étranger en 2002 en France pour Monte Didio, avait confirmé son soutien sans faille au mouvement No TAV, No Treno ad Alta Velocità ou Non au train à grande vitesse en français, qui fait rage en Italie contre le projet de liaison rapide entre Lyon et Turin. On ne peut invoquer la liberté d'expression dans ce cas, a lancé M. Rinaudo, arguant qu'il s'agissait d'un discours public prononcé dans un contexte précis et ayant conduit à l'instigation de la violence, à des actes concrets et illégaux. En raison de sa notoriété internationale, ses paroles ont un poids déterminant et ses phrases une force suggestive, a-t-il insisté. Ce réquisitoire est un message sur la liberté d'expression, a déclaré Eri De Luca à la presse, se disant non pas un martyr ni une victime, mais le témoin d'une volonté de censure de la parole. Serais-je brûlé par la suite? Ce n'est pas Eri De Luca qui dramatise ainsi sa situation, mais un écrivain néo-zélandais, Ted Dow, dans le New Zealand Herald. Son livre Into the River vient d'être interdit temporairement par le Bureau de classification des films et de la littérature, explique Thomas Laborde dans Libération. L'objet polémique, un livre commercialisé depuis 2 ans. Le récit évoque l'histoire d'un jeune Maori qui, bénéficiant d'une bourse, part étudier dans une institution prestigieuse du pays. Il y découvre le sexe, la drogue, le racisme. Les scènes sont trop crues pour le censeur et certaines structures conservatrices, à l'image de la Family First New Zealand, un lobby chrétien en partie responsable de l'interdiction. L'autorité néo-zélandaise doit maintenant prendre une décision. Déjà interdite au moins de 14 ans par le passé, l'œuvre de Ted Dow devrait faire l'objet d'une nouvelle classification. Nous sommes dans une situation absurde. Nous pouvons vendre 50 nuances de gris à des gamins de 10 ans, mais pas Into the River, déplore dans Salem, le magazine du Monde, une libraire d'Auckland. Ted Doe, également enseignant, explique avoir écrit ce roman pour donner envie de lire aux jeunes des milieux défavorisés en abordant les sujets qui les interpellent avec des mots qui sont les leurs. In fine, la censure pourrait l'aider à atteindre son objectif. Into the River a depuis cette affaire bénéficié d'une énorme notoriété. Le livre a fait les gros titres de la presse néo-zélandaise et des plus grands médias anglo-saxons. Et les Néo-Zélandais peuvent toujours acheter Into the River en ligne. Merci Internet.